Il est écrivain, cinéaste, président de l'Académie Goncourt et ancien punk. Il a donc écouté les Ramones ou les Stranglers, mais pas que.
Un jour, j'entends un chanteur d'origine néerlandaise, mais qui chante en français, Dave, chanter une chanson du côté de chez Swan. Et je me dis, mais c'est beau, mais c'est qui Swan? C'est quoi ce côté de chez Swan? Et je peux le dire sans, avec beaucoup de reconnaissance, et même si ça paraît incroyable, c'est grâce à Dave que j'ai connu Proust, moi, vous voyez. Donc là, on a un lien entre la variété, hein, dans tout ce qu'elle a de plus populaire, et puis la découverte d'un auteur qui va devenir capital dans mes lectures, quoi. Et c'est ça aussi qui est magique parfois, c'est cette espèce de rencontre improbable, vous voyez. Et cette chanson, chaque fois que je l'écoute, si je suis quelque part, j'arrête de faire ce que je suis en train de faire et je l'écoute jusqu'au bout, quoi.
Une échappée avec Philippe Claudel, écrivain, c'est Totemic jusqu'à la prochaine heure. Nous étions tous les deux à une table de 10, la table où les jurés du Goncourt délibèrent, sous la présidence de Philippe Claudel, au premier étage de chez Drouan. Avant qu'il n'intègre cette académie, lui-même fut lauréat du Goncourt des lycéens, avec le rapport de Brodeck, du Renaudot, pour les âmes grises. Dans son avant-dernier roman, Philippe Claudel mettait en scène la façon dont se fabrique une vérité, celle que la majorité a envie d'entendre. Dans le roman qu'il vient de publier, il met en scène les auteurs contemporains de cette vérité alternative, Elon Musk, Donald Trump, Vladimir Poutine. Le livre s'intitule « Wanted » et Philippe Claudel mêle la réalité de ses personnages à une fiction burlesque, à une farce. Cela dit, l'actualité nous le montre chaque jour, tout peut arriver, tout est possible. Tandis que nous conversions depuis une bonne demi-heure, j'ai jeté un coup d'œil rapide sur mon magnéto, et là, rien. Enfin, la durée enregistrée oscillait entre 1 minute 15 et 1 minute 16. Alors, d'une voix blanche, j'ai dit...
Philippe, j'ai eu un petit problème technique.
Ouais.
Il va falloir que je vous repose des questions. Bonjour. Vous avez un petit peu de temps ou pas?
Il faudrait que... J'ai un train à 18h07.
Oui, là, c'est bon.
Évidemment que non, c'est pas bon. Falloir... Il nous restait 20 minutes et Totemic dure le double. L'angoisse et la honte.
Vous voulez un peu nous, Rebecca?
Oui, je veux bien, ouais.
Les interviews sont des situations qui reviennent plusieurs fois dans le dernier roman de Philippe Claudel. Mais dans sa fiction, ça n'est pas l'intervieweuse qui fait foirer la conversation, c'est l'interviewé. Dans Wanted, ceux censés répondre aux questions s'appellent Elon Musk ou Donald Trump. Philippe Claudel s'est inspiré de la réalité pour dialoguer leur prise de parole. Ce moment où Trump, par exemple, demande à un journaliste de s'éloigner à cause de son haleine. Wanted, c'est notamment le récit de conversations et d'échanges impossibles. L'outrance qui démonétise les mots. J'ai éteint mon magnéto, je l'ai rallumé, et ça a marché.
Elon Musk, Poutine, Trump, on vit avec. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, ils sont entrés dans nos vies. Mais quand je dis entrés, ils ont quasiment fracassé la porte pour entrer dans nos vies. Et cette espèce de violence d'irruption, il fallait que j'en fasse quelque chose. Et je me suis dit, mais ces êtres qui se permettent d'entrer comme ça dans nos vies, bien moi je peux aussi me permettre d'entrer dans la leur. Et d'entrer notamment dans leur tête, et d'essayer de voir quel est ce labyrinthe absolument obscur et dément, quel est leur mode de pensée, leur façon d'articuler leur pensée et leur vision du monde. Quoi.
Et donc, il y a l'idée qu'on a été sidéré et qu'on continue de l'être par rapport aux prises de parole et par rapport aux décisions énoncées par ces deux hommes. La réalité dépasse la fiction, et comment, quand on est écrivain, comment la fiction peut reprendre les rênes sur cette réalité?
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'impression à un moment, je prenais cette image de ces êtres qui fracassent une porte et entrent dans nos vies, mais j'avais l'impression aussi par rapport à l'écriture, par rapport à la maturation que demande la jeunesse d'un livre et d'un projet, et par rapport à donc, ce couple fiction-réel, que ces types mais avaient trois longueurs d'avance sur moi, cavalaient devant, quoi. Et je me suis dit, mais c'est pas volonté d'être le premier ou devant eux, mais j'avais l'impression qu'ils me prenaient mon champ d'investigation qui est celui de la fiction, en proposant comme ça des choses qui étaient de l'ordre de l'irrationnel, du roman, de l'invention, d'imagination la plus débridée. Et je me suis dit, non, là, mes cocos, attendez, moi aussi, il faut que je fasse mon job. Donc, je vais venir un petit peu sur votre terrain également.
Alors, quel est le pouvoir des mots dans ce contexte-là?
Le pouvoir des mots, il est de nous alerter, de nous réveiller, de nous redonner de l'énergie aussi. Moi, je l'espère beaucoup avec ce livre. Une énergie du rire, une énergie de l'ironie, de la moquerie, de la résistance. Je trouve que, passé ces quelques semaines de sidération, il faut quand même que les citoyens et citoyennes, et on en voit des signes quand même, se réveillent et montrent que, pour reprendre le titre d'une chanson de Patti Smith, que le peuple a le pouvoir, quoi. Enfin, les gens ont le pouvoir.
Et, people have the power.
Absolument. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que le petit Musk commence un petit peu à s'en faire, là, et en voyant la chute de ses actions Tesla. Là, on a une conséquence directe, quand même, d'un pouvoir qui est repris par des gens qui, en opposition à une forme de folie, disent, bon, ben, nous, on a quand même le pouvoir de faire quelque chose. Donc, réfléchis un peu, mon coco. Et comme, en fait, leur seul mode de pensée semble une logique comptable de gains et de pertes ou de bénéfices, c'est là qu'il faut agir.
Alors, vous n'avez pas choisi Patti Smith comme musique à écouter. Vous avez choisi un tube étroitement lié à un événement historique, à savoir la chute du mur de Berlin. Pour resituer, nous sommes en 1989, au mois de novembre. Le mur de Berlin vient de tomber. Rostropovitch, violoncelliste de génie, est prévenu par des amis qu'il se passe quelque chose. Dans l'instant, il choisit de se rendre à Berlin. Et il décide, donc ce musicien de génie connu dans le monde entier, décide de s'asseoir sur une petite chaise au pied du mur. Grâce à vous, j'ai revu les images. Derrière lui, il y a un Mickey où il y a écrit « Bienvenue à Berlin-Est » et le « Est » est barré. « Bienvenue à Berlin ». Alors, avant qu'on en parle, j'aimerais qu'on écoute. Il a choisi, ce jour-là, d'interpréter une sarabande de Bach. En 1989, Philippe Claudel n'avait pas encore publié de livres ni tourné de films. Il avait 27 ans.
Je vois ces images du mur qui s'effondre, de ces gens heureux. Quelques jours plus tard, dans Nancy, où j'habitais, je vois les premières Trabants qui arrivent. Des Allemands de l'Est dans leurs petites Trabants, leur voiture de Mickey. Vous parliez de Mickey sur le mur, mais quand on voit une Trabant, voilà, c'est une tellement petite voiture, c'est un moteur de temps. Ils avaient fait tout ce trajet pour savourer ces premiers instants de liberté. Pour moi, qui suis encore un jeune homme, ce sont des moments de, à la fois de grande émotion et d'immense fierté, une fierté humaine, quoi. De voir que, voilà, il y a des instants dans la vie où des décisions, décision par exemple de ne pas envoyer les chars, hein, pour contrecarrer ce mouvement, voilà, d'accepter comme ça ce sens de l'histoire, et aussi un immense espoir. C'est-à-dire que moi, ma génération, enfin, et les autres, on avait l'impression que ça y est, c'était fini, quoi, que la liberté allait progresser, qu'on allait être dans une Europe, y compris dans l'ancien bloc soviétique, tout à fait stable, heureuse, etc. Et bien, ça n'a pas duré très très longtemps, quoi. Enfin, ça a duré quelques temps, et il y a ce février 2022, où soudain, un pays qui s'appelle la Russie, dirigé par quelqu'un qui s'appelle Poutine, décide d'envahir un pays libre européen, l'Ukraine. Donc, pour moi, la violence de ce février 2022, elle est à la hauteur de l'émotion de 89. Quoi. C'est en termes de valeur absolue, il y a une puissance d'émotion, mais malheureusement, ce sont des émotions contraires.
J'aimerais bien revenir sur une expression que vous avez utilisée, c'est fierté humaine. Qu'est-ce que vous mettez derrière ça? Parce qu'il y a le fait de ne pas envoyer des chars, et puis il y a le fait d'un musicien aussi immense que Rostropovitch, parce qu'il y a un symbole très très fort là-dedans, de quelqu'un qui dit il faut que je sois là, il faut que je joue là.
Oui, toutes les notes qui montent de son violoncelle, elles sont en train de défaire, même si on ne le voit pas à l'image, mais elles sont de défaire brique par brique le mur qui est derrière lui. Et elles en maçonnent un autre qui est un mur humain, un mur de réconciliation et non pas de division, quoi. C'est ça la fierté d'être humain, c'est ça. Parfois, il y a des moments dans l'histoire ou même dans la vie où on peut être fier, quoi. Mais il y en a d'autres où on peut avoir honte, quoi. Et c'est là on en revient à la période contemporaine où la honte quand même prend le pas sur la fierté, mais en même temps c'est pas une raison pour ne rien faire, et au contraire, très modestement, je vais pas me comparer à Rostropovitch, mais l'art peut faire quelque chose et doit faire quelque chose. On n'est pas dans de l'entertainment, justement. On est dans l'utilisation de la musique ou des formes artistiques, quelles qu'elles soient, la littérature ou autre, pour à la fois exprimer quelque chose et surtout redonner de la fierté, redonner de la force. Ne pas faire croire qu'aujourd'hui, les gens, ben, on ne peut être que des jouets. Non, on peut être aussi des acteurs.
D'où vous vient cette conviction-là ? D'où vous vient la conviction que justement l'art peut donner de la fierté humaine ? Parce que c'est pas un sentiment forcément très largement partagé quand on voit la place de la culture aujourd'hui, quand on voit les coupes budgétaires concernant justement la culture en région. Vous, en tant qu'homme, d'où elle vient cette conviction profonde ?
Elle vient d'une expérience purement personnelle, c'est-à-dire que quand je suis dans un musée face à un tableau de quelque artiste que ce soit d'ailleurs.
Hein, oui, mais il faut y entrer dans ce musée.
Il faut y entrer, oui, bien sûr. Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il y a des pays dans le monde quand même où beaucoup de musées sont gratuits, par exemple.
Mais ça peut être un lieu intimidant aussi.
Comme une librairie, Rebecca. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui n'osent pas entrer dans des librairies parce qu'ils ont peur, en demandant certains livres, peut-être d'être mal reçus, ou alors n'osant pas, justement, franchir les portes, c'est important, mais c'est là aussi où le rôle fondamental de l'école, de l'enseignement, de l'éducation, qui vous ouvre une voie, qui vous montre quelque chose, qui vous dise « mais toi aussi tu as le droit de faire ça ». Et moi je l'ai eu quand même, j'ai eu quelques professeurs ou maîtres sans lesquels je ne serais rien. Moi j'ai eu un maître quand j'étais en CM1, CM2, qui nous a fait découvrir la poésie, les journaux intimes, et qui nous demandait d'écrire nous-mêmes des poèmes. Et en quelque sorte, cet instituteur, il nous disait « mais bien sûr, il y a Rimbaud, il y a Verlaine, il y a Victor Hugo, mais vous aussi, petit gars de la campagne lorraine, vous avez aussi le droit d'écrire de la poésie. C'est pas un champ exclusif, c'est pas un champ réservé à d'autres. » Donc, pour aller vers ces matérialisations de la fierté humaine, c'est ce que je ressens quand je suis devant un tableau, quand j'écoute une musique, quand je vois une sculpture, quand j'assiste à une représentation théâtrale, ben il faut effectivement des accompagnateurs, il faut des personnes qui nous ouvrent les portes.
Philippe Claudel, écrivain, est l'invité de Totémique jusqu'à 10h.
Vous n'avez jamais eu peur d'entrer dans une librairie, un théâtre ou un musée ?
Non, parce qu'un punk n'a peur de rien.
Mais alors parlons de votre passé punk, là.
En quelque sorte, j'ai un culot monstrueux. C'est-à-dire que, ou alors je suis comme les cons, comme disait Michel Audiard, j'ose tout, vous voyez.
Alors, là, comme vous avez tendu la perche de la punkitude... Parce que vous l'avez été. C'est-à-dire que là, on a écouté une sarabande de Bach par Rostropovitch, mais la bande-son de votre adolescence, qui était donc la fin des années 70, c'est le punk.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
Punk un jour, punk toujours. Donc je suis toujours quelque part, très, très intérieurement, et même si ce n'est plus visible de façon capillaire, mais bien au contraire. Maintenant, les cheveux, ils sont sur le côté et plus au milieu, mais... Si vous voulez, je suis né et j'ai grandi, plutôt j'étais adolescent, au moment où ce mouvement musical explosait, parce que c'était vraiment une explosion, donc avec des voix qui étaient extrêmes, à la fois dans leur rugosité, dans leur texte, dans leur musique aussi, très basique, mais quelque chose qui vous parle aux tripes et qui vous dit quelque chose. Quand vous êtes un gamin un peu déchaîné, il y avait une concordance à la fois des temps, une concordance d'humeur, une concordance de désir et de révolte aussi. Donc j'ai eu la chance d'être ado ou fin d'adolescence au moment où sortaient les premiers Patti Smith, les albums des Sex Pistols, les premiers Stranglers, etc.
Mais il y a aussi dans le punk l'idée de faire quelque chose avec peu. Il y a l'idée de faire quelque chose avec ce qu'on a.
Oui, et puis il y a l'idée de la provocation aussi. Hein. C'est quand même extrêmement provocateur dans la mise, dans la gestuelle, même si bon, le rock...
Ça vous plaisait ?
Ah oui, beaucoup. Oui. Si on reprend des expressions du 19e, faire peur aux bourgeois, vous voyez, c'était quand même un grand plaisir d'effrayer. Parce qu'on était effrayants, quand même, physiquement. On avait des fringues déchirées, on avait des épingles à nourrice. On se maquillait. Il y avait des choses quand même. On passait pas inaperçu et on aimait ça aussi. Le fait de pas passer inaperçu, c'était important aussi, devenir des personnages comme ça.
Comment vous avez quitté cet univers ?
Après mon baccalauréat, je passe 2 années à me croire poète, cinéaste, vaguement musicien ou je sais pas quoi, à faire plein de choses et surtout à traîner énormément dans les cafés, à refaire le monde et surtout à ne rien faire, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de 2 années comme ça d'errance un peu artistico marginale, je me rends compte que je suis en train, au lieu de tracer une voie ou de monter un escalier qui m'amène vers quelque chose qui me satisferait, en fait je descends. Je descends de plus en plus, je bois de plus en plus. Et là, c'est les miracles de la vie. J'ai la chance de rencontrer quelqu'un qui va devenir ma femme et qui, sous ce type un peu bizarroïde et pas très intéressant, découvre quelque chose et décide de lui dire « Mais mon coco, t'es en train d'avoir tout faux, quoi. Donc reviens un peu dans le réel et puis... Essaye plutôt de prendre des études un peu sérieusement. Tu pourras toujours écrire tes poèmes à la con, tes petits romans de merde, mais essaye d'avoir quand même un boulot, fais des études, ne gâche pas tout, quoi. Et voilà, ça se joue à rien, une vie, en fait. Ça, moi, j'en suis persuadé. Mais,
Là, vraisemblablement, ça se joue à un amour.
Oui. Quand je dis à rien, c'est-à-dire vous tournez à gauche ou vous tournez à droite et vous rencontrez pas la personne qui va vous aimer, que vous allez aimer, qui va vous sauver, qui va vous permettre d'être vous-même, quoi.
Vous avez un passé punk et vous en gardez quelque chose. Vous présidez l'Académie Goncourt et vous avez fait, je ne sais pas si c'est encore le cas, vous avez fait partie des Grosses Têtes.
Oui.
C'est toujours le cas ?
C'est toujours le cas, oui.
D'accord.
Oui.
C'est-à-dire qu'entre le punk, présider l'Académie Goncourt et participer aux Grosses Têtes, c'est des univers quand même qui n'ont strictement rien à voir.
Bien sûr, vous pourriez rajouter plein de choses, je sais pas moi, aller à la pêche, chercher les champignons, enfin oui, prendre le plaisir de laver la vaisselle ou une voiture, j'adore ça, enfin bon, mais je pense qu'on est tous pareils, enfin on n'est pas monolithique, on est des puzzles.
Mais c'est très rare d'avoir cette aisance dans des univers aussi différents.
Peut-être parce que les gens n'osent pas, voyez. Et moi, j'ose tout. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a que les cons qui osent tout. C'est à ça qu'on les reconnaît. Mais faire les Grosses Têtes, déconner pendant 2h30 à la radio, sortir des vannes, des plaisanteries, etc., ça me ressemble. Être ici, autour de cette table, parler de littérature, essayer de choisir le livre qui nous paraît le meilleur, ça me ressemble. Discuter avec des hommes politiques, de géopolitique, ça me ressemble parce que ça me passionne. Et aller aux champignons, ça me ressemble aussi. C'est-à-dire que, mais simplement, moi, je ne me mets pas de barrière. Donc, ce que j'ai envie de faire, je le fais. À partir du moment, la seule barrière que je me mets, en fait, c'est à partir du moment où ça ne fait pas de mal aux autres. J'ai vraiment le... Ça, c'est un souci... Et une angoisse que j'ai de pouvoir blesser les autres. Ça me... Voilà.
À quelle heure est votre train, Philippe ?
Il faut que je parte dans très très peu de temps. Quand je dis très peu de temps, c'est quelques minutes, quoi.
Ok.
Une version du punk en 2025, ce pourrait être ce duo de filles, Wet Leg, Cut These Feet.
friends late at night. Some guy comes up, says I'm his type. I just threw up in my mouth when he just tried to ask me out. Yet don't approach me, I just wanna dance with my friends.
Les faits. En raison d'un problème technique lié, il faut en convenir, à une maîtrise encore hasardeuse d'un nouvel outil, je n'avais pu enregistrer que 20 minutes d'interview avec l'écrivain Philippe Claudel, dont le nouveau roman s'intitule « Wanted ». Avant qu'il ne court gare de l'Est pour éviter de rater son train, j'ai demandé « Quand revenez-vous à Paris ?» Réponse « Demain ». Coup de bol. Nous nous sommes donc retrouvés le lendemain dans un café dans le quartier de Châtelet, pas loin de l'endroit où il avait rendez-vous. Vous voulez un petit café ?
Ah, je veux bien, ouais.
Ok.
Ah, il est chaud déjà. Je suis en manque d'hiver, moi.
Pardon ?
Je suis en manque d'hiver. Il fait trop chaud. Je suis en manque d'hiver dans la mesure où, avec ce fameux réchauffement climatique que certains nient pourtant, eh bien, je n'ai plus ces saisons tranchées à vif, et notamment cet hiver lorrain enneigé, froid, avec des moins 15, moins 20 que j'adore et qui ne sont plus qu'un souvenir, mais que je retrouve quand même en haute montagne. Donc, voilà.
Mais vous aimez écrire sur l'hiver ?
Oui. Vous savez, il y a cette très belle phrase très célèbre de Gilles Vigneault, chanteur québécois, qui disait « Mon pays, c'est l'hiver ». Je m'y reconnais complètement. C'est une saison qui, pour moi, se prête à l'introspection par tous les moyens, c'est-à-dire l'écriture, la lecture, l'intimité, même au sein de la famille, au sein de... Il y a quelque chose qui me fait revenir au plus profond de moi-même, et notamment avec ce délice de voir les jours très courts. Et dans beaucoup de livres que j'ai pu faire, c'est vrai que l'hiver est présent. Et notamment, je me souviens, pas dans le dernier, mais dans presque l'avant-dernier Crépuscule, il y a 2 ans, je m'étais volontairement construit l'hiver, quoi, pour avoir le plaisir de le retrouver à chaque fois que je reprenais le texte. Et heureusement, voilà, l'imagination, l'écriture, la lecture nous permettent de reconstruire un monde quand celui dans lequel on est ne nous satisfait pas complètement.
Là, vous arrivez de la gare de l'Est, parce que, pour tout dire, on s'est vu hier, mon fucking magnéto a eu un problème, donc on se revoit aujourd'hui. Vous avez fait l'aller-retour pour rentrer chez vous, donc dans une petite ville de Meurthe-et-Moselle. C'est là que vous êtes né. Comment ça vous a façonné, ce lieu, puisque vous avez fait le choix de continuer à y vivre ?
Oui, mais le choix ne s'est même jamais posé. C'est-à-dire qu'à aucun moment, si vous voulez, je me suis dit, tiens, bon, il y a une hésitation, il faut que j'aille vivre à Paris, à Los Angeles, ou je ne sais pas où. Il y a plein de villes dans le monde qui me plaisent énormément, plein d'endroits que j'aime découvrir ou redécouvrir. Mais cette petite ville où je suis né, qui s'appelle Dombasle-sur-Meurthe, qui est une ville de la fin de l'agglomération nancéenne, et après c'est la campagne, c'est 10 000 habitants, ça a été une ville ouvrière très importante, maintenant elle est plutôt ouvrière, classe moyenne. Tout me parle de moi-même, tout me construit et tout me renvoie à moi-même aussi. Et ce qui est magique, quand vous avez la chance, enfin pour moi c'est une chance en tout cas, de vivre toujours sur le lieu de votre naissance, le lieu où vous avez grandi, c'est qu'aujourd'hui, quand je me promène, je remets mes pas dans des sentiers où je marchais quand j'avais 8 ans, quand j'avais 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a le plaisir soudain de cheminer presque à côté d'un jeune fantôme, vous voyez, qui aurait été moi-même, et avec une sorte de magique aimantation des souvenirs qui viennent justement à ce moment-là, qui se pressent autour de moi quand je suis dans ces promenades, dans ces lieux que j'aime, dans ces lieux que j'ai connus. En marchant dans ces lieux, en traversant les mêmes vergers, les mêmes petits bouquetaux, il m'arrive souvent d'oublier mon âge et d'oublier le temps qui est celui dans lequel je suis ancré maintenant. Et je me revois quand j'ai 10 ans, 14 ans, etc. Donc il y a un côté extrêmement troublant du lieu, en fait, qui est chargé de vous-même et qui, en même temps, vous recharge. Enfin, moi, ça me recharge, quoi, comme une batterie.
S'il fallait choisir un lieu à Dombasle-sur-Meurthe, dans la ville où vous vivez, où vous êtes né, s'il fallait en choisir un lié précisément à un souvenir fondateur, Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit ?
Ce serait un coteau qui domine la ville, qui s'appelle le coteau du Rambétan, qui dans mon enfance était un coteau où les vergers qui appartenaient aux familles étaient extrêmement bien entretenus. Jadis, ça avait été un coteau de vigne, et puis le phylloxéra avait tout ravagé. Et ensuite, c'était des vergers. Et moi, j'ai toujours un verger sur ce coteau. Et c'est le lieu, si vous voulez, c'était ma terra incognita. Enfin, à la fois cognita et incognita quand j'étais gamin. C'est-à-dire que je partais la journée avec une gourde d'eau, avec un peu de pain, du chocolat. Et je me prenais pour un explorateur. C'est-à-dire que j'étais vraiment avec des Russes de Sioux à être à quatre pattes dans des vergers, observer les oiseaux, les renards, à manger les fruits trop verts et avoir des diarrhées formidables après. Mais voilà, une expérimentation, faire des petits feux, enfin, une expérimentation du monde. Et une cartographie aussi. Et de là est né vraiment un amour profond que j'ai pour les cartes, que je consulte toujours beaucoup encore, même aujourd'hui, à l'ère numérique, où finalement Google Maps a remplacé les cartes papier. Mais moi, j'ai beaucoup de cartes à la maison. J'adore les couleurs des cartes, la façon dont les rivières sont représentées, les forêts, les courbes de niveau, etc. Et ça m'a toujours fait rêver, les cartes. Donc, quand j'étais en balade, quand j'étais petit comme ça, j'avais toujours une carte, ce qu'on appelait une carte d'état-major, au 15e ou au 25e dans la poche.
Où on voit les niveaux et tout, là.
Absolument, oui, oui. Puis j'avais une boussole aussi, vous voyez. J'avais évidemment un couteau. Moi, je suis un... J'en ai toujours maintenant, alors plus dans mon sac, parce que vous savez que c'est interdit de se promener avec des couteaux. Mais à la maison, j'ai des couteaux, j'écris avec des couteaux devant moi. Et ça me... Je les manipule souvent, d'ailleurs... c'est presque des instruments d'écriture, en fait.
Ah ouais ?
Oui, oui, enfin, symboliquement, j'ai souvent dit que, pour moi, écrire, c'était trancher un corps, quoi. Soit un corps intime, soit un corps social, c'est voir un peu, pratiquer une autopsie du vivant, voir ce qu'il y a dedans, voir comment ça fonctionne, comment ça dysfonctionne, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Donc, le couteau, c'est comme le stylo, quoi. C'est un stylo scalpel, ça permet ça. Puis, en plus, c'est un bel objet. Moi, j'aime beaucoup l'artisanat, en fait. Le fait que voilà, l'homme sache fabriquer des couteaux, sache fabriquer des assiettes en faïence, ou ce que vous voulez. Enfin, les produits humains manufacturés et aussi artisanaux, ça me fascine.
Je vous laisse boire quelques gorgées de café.
Merci.
J'adore le monde. Les eaux sont blancs. Le sang rouge. Quand il y a du vent, ça bouge. Il y a les rivières, les films d'épouvante, pour les pièces de monnaie, il y a les fentes. J'adore le monde, car il y a le temps, l'espace, que les guerres. Ça se tasse, j'adore le monde et tout ce qui palpite, gronde, j'adore le monde. J'adore le monde, la pluie qui vient du ciel, du ciel. J'adore la nuit, car j'ai peur de la nuit. J'adore le monde, la galaxie, quand la vie te sourit. Y'a rien de plus sans cesse, tu décolles, seul bémol. Quand la vie ne te rigole, tu te sens tout petit, tout petit, petit, tout petit, tout petit, tout petit, petit.
Philippe Claudel met en scène Musk, Trump, Poutine dans un roman qui s'intitule Wanted. Et la voix qu'il a choisi de vous faire écouter ce matin est celle d'un écrivain, c'est Primo Levi. Pour les 70 ans de Si c'est un homme, où Primo Levi témoigne de sa vie à Auschwitz, Philippe Claudel a rédigé une préface qui se termine par ces mots.
Si c'est un homme de Primo Levi est un caillou perpétuel dans le soulier de l'humanité. Voici l'une des rares archives vocales de Primo Levi enregistrée en 1976.
Proprio il ritrovare la libertà per me ha coinciso con tante altre cose.
Précisément, le fait de retrouver la liberté a coïncidé pour moi avec bien d'autres choses, avec la liberté elle-même,
la scoperta dello scrivere,
avec la découverte de l'écriture,
con paradossalmente con la scoperta di avere in mano
paradossalement un'esperienza avec la découverte de posséder une expérience extrêmement douloureuse mais précieuse qui pouvait durer comme un capital qui donne ses fruits et qui en effet continue de fructifier d'une certaine façon. Elle m'a fourni une certaine compréhension du monde et la faculté d'y réfléchir. Et je considère cela comme positif.
Et ce que dit Primo Levi dans ce son, c'est que cette expérience l'a amené à l'écriture.
Oui, mais même s'il en a été un moment assez déçu, parce que quand il a vu que cette écriture, cette voix ne portait pas, n'était pas entendue, il était prêt à arrêter. Hein. Et d'ailleurs, même le manuscrit n'avait pas été accepté chez un grand éditeur. Donc il était paru chez un petit éditeur. Mais l'art, en général, c'est quelque chose qui nous permet de voir ce qu'on ne verrait pas sans lui. C'est tout simple, mais c'est ça. C'est-à-dire que l'écrivain, l'écrivaine, l'artiste en général, c'est quelqu'un qui vous propose des questions que vous ne vous êtes pas posées, de regarder des choses que vous ne voulez pas voir ou que vous ignorez. Voilà, la voix d'Hugo, la voix de Primo Levi, la voix de tous les autres, grands ou modestes, ça sert à quelque chose. L'écrivain sert à quelque chose. Dire les choses, ça sert à quelque chose. Et il ne faut jamais baisser les bras et il ne faut jamais se dire qu'on écrit pour rien. On écrit toujours pour quelque chose et on écrit surtout toujours pour les autres.
Le fait d'être né en Lorraine, ça veut dire pas très loin de l'Allemagne. Vous êtes né au début des années 60. Ça veut dire que vos parents ont vécu la guerre. Donc entre la génération à laquelle vous appartenez et la géographie, vous avez entendu parler de la guerre, j'imagine.
C'est même plus qu'entendu. C'est-à-dire que j'ai été presque allaité au lait noir de la guerre. C'était constamment dans les conversations. Même quand elles étaient légères ou un peu humoristiques. Ma grand-mère, quand j'étais petit, je me promenais avec elle. J'avais 6-7 ans. On croisait un homme très grand. Elle dit « Regarde voir ce hulan ». Elle faisait référence à la guerre de 70, qu'elle-même n'avait pas connue. Mais ça s'était transmis dans le langage. Quand il pleuvait, ça tombe comme un gravelotte. Pareil, référence à une bataille meurtrière près de Metz, de la guerre de 70. Et ensuite, bien sûr, après 14-18 et 39-45, dans les récits que ces vieilles personnes avaient connues, dans les récits de mon père et de ma mère, puisque eux avaient vécu cette guerre, mon père est un peu plus âgé que ma mère, il avait été résistant, ma mère était enfant, elle chantait tous les jours presque « Maréchal, nous voilà », quoi, dans son école, hein. Et puis en même temps, elle était dans cette petite ville de Lorraine, à Dombasle, elle a vu un jour la gendarmerie française débarquer et emmener deux de ses amies, les petites sœurs Lazarovitch, vers une destination de laquelle elles ne sont jamais revenues. Donc, très jeune, si vous voulez, ma mère me racontait ce destin de ses amis d'enfance qui avaient été déportés, elle avait les larmes aux yeux, et même encore 3 jours avant sa mort, elle m'en parlait encore en ayant les larmes aux yeux. Et moi, ça m'a donné une sensibilité à la guerre, à la Shoah, au génocide, aux souffrances, où qu'elles soient, quoi. C'est-à-dire que quand je suis dans un pays en guerre ou qui vient juste de sortir de la guerre, ça me rappelle énormément de choses qu'on m'a racontées ou que j'ai connues par personne interposée. Et en plus, en Lorraine, je jouais dans des paysages qui avaient été des lieux de bataille. Notamment, on allait souvent dans les Vosges, puisque mon père en était originaire. Et les forêts où je vais encore aujourd'hui sont des forêts qui ont été des lieux de bataille féroce, surtout au début de l'offensive, fin de la guerre. Et je retrouve encore aujourd'hui des obus, des morceaux de chaussures, des boutons de manteau, parfois des os encore aussi. Donc cette souffrance humaine, elle est toujours présente. Et bien entendu, elle m'a construite, oui.
On fait la photo ? Il y a une photo à faire à la radio ?
Non, c'est normal à la radio, les photos. Évidemment.
Ça va, on est dans les temps. Hein.
Oui, c'est bien, ne faites pas. Ouais. C'est génial.
Prenez-la.
J'adore.
On va attendre qu'elle se développe.
Ouais. Bien sûr.
Vous apparaissez.
Oui, 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 mais bientôt je vais disparaître aussi. Moi, je suis quelqu'un qui adore les tours de passe-passe. Je trouve que on est dans une époque d'extériorisation, d'exposition, où tous les gens se mettent en scène. Et je n'ai jamais compris cette volonté de se mettre en scène et de partager même des moments les plus intimes ou les plus triviaux avec des inconnus par le biais de ces fameux réseaux qu'on appelle sociaux, mais qui ne le sont pas tellement parfois.
Vous n'êtes pas sur les réseaux, vous, donc?
Je n'ai jamais été sur aucun réseau social.
Vous ressemblez à qui?
Je ressemble de plus en plus à mon père, je pense. Quand je me regarde dans la glace, dans le miroir, quand je me rase, je revois mon père.
Quand vous vous rasez?
Oui, 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 non, c'est vrai j'ai l'impression que, avec le temps qui passe et avec ce corps qui se transforme et qui se détruit peu à peu, je vois apparaître l'image de mon père quand il avait mon âge, ou à peu près, quoi, vous voyez. Moi, le temps ne m'angoisse pas, vieillir ne m'angoisse pas, mourir non plus. Au contraire, moi, je suis excité par chaque nouvelle aventure et chaque moment nouveau dans la vie. J'expérimente, quoi. Moi qui fais toujours beaucoup de sport, je m'en fiche de pas nager aussi vite que jadis ou grimper aussi fort, etc. Je m'adapte et j'aime bien ça, voir comment mon corps s'adapte à ce temps qui passe.
Merci beaucoup, Philippe Claudel.
Merci, merci à vous, Rebecca.
Wanted de Philippe Claudel est publié chez Stock. Koyan Guyane réalise Totemic et c'était avec Jérôme Ragano ce matin. Perrine Malinge programme l'émission, Ilinka Negulescu la prépare et JB Audibert assure la programmation musicale. La semaine prochaine, Totemic est à Cannes avec les frères Dardenne.